L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous et bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur BFM Business et l'atelier numérique. Comme chaque samedi 16h-18h, votre rendez-vous dédié à l'actualité des nouvelles technologies. Et je suis ravi d'être là, bien sûr. Au menu de cet atelier tout à l'heure, le Silicon Carnet avec Pauline Cantner. On va parler du phénomène de l'e-sport, la sélection de gadgets, bien évidemment, d'Antoine. Notre start-up de la semaine, ça sera Bypass. L'enquête de l'atelier, à quoi ressemblera l'aéroport de demain? On en parlera avec nos invités Lila Megraoua. On évoquera aussi la Chine. L'innovation et la notion de propriété industrielle qui, vous verrez, est un petit peu différente par rapport à nos contrées occidentales. La passion selon Sanet, on évoquera tout à l'heure la sécurité des véhicules et des transports intelligents, car bientôt tous les véhicules seront connectés. Comment justement les protéger des attaques des pirates? Ça sera tout à l'heure, notre World Tour, notre dossier de l'atelier. L'actualité vue par l'équipe de 01net.com tout à l'heure et puis le crash test d'Antoine Cyr. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour cet atelier. Avec autour de ces micros, nous avons Aurore, Cécile, Sophia, Pauline qui est à San Francisco et Constance. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour. Bonjour.
Et oui, il n'y a que des filles autour de moi aujourd'hui. J'ai bien de la chance. On va commencer par l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Et c'est avec Pauline de San Francisco que nous allons débuter. Bonjour Pauline.
Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous parle exclusivement de jeux vidéo. Je suis devenue un geek moi-même. Et je vais vous parler du marché chinois. Mais pour revenir sur le marché américain, je fais la boucle. Est-ce que vous connaissez Tencent pour commencer?
Ça me dit quelque chose.
Alors Tencent, c'est le géant de l'internet et du mobile chinois.
Ah oui.
C'est aussi une entreprise qui a des grosses activités dans le jeu vidéo. En matière de revenus, c'est la plus grosse entreprise de jeux vidéo au monde, devant les grands studios américains Activision Blizzard, Electronic Arts. Mm-hmm. Tencent, c'est presque 9 milliards de dollars de revenus avec une croissance de 21% seulement sur les jeux vidéo. Donc imaginez-vous, ça rigole pas. Et alors souvent les titres développés par Tencent, on les connaît pas nous en Europe ou aux États-Unis. Si je vous parle de Crossfire ou Dragon Power, donc tous ces jeux qui incluent énormément de dragons et de combats à l'épée, ça ne vous parle pas. Eh bien, ça pourrait bien changer parce que Tencent vient de réaliser un coup de maître. Ils viennent d'acquérir Supercell, qui est un studio de développement de jeux vidéo finlandais assez célèbre. Supercell, c'est ceux qui développent les jeux vidéo mobiles les plus vendus au monde et les plus joués au monde. Nous savons, c'est la série Clash of Clans, Clash Royale. Pour votre information, Clash of Clans, c'est 250 millions d'utilisateurs dans le monde, 80 millions de dollars de revenus seulement pour le mois de mars. Donc c'est le premier jeu vidéo mobile au monde. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que d'une part, ça montre que les rockstars du jeu vidéo américain n'ont plus forcément la part belle dans le marché occidental entre guillemets, et que maintenant ils doivent compter avec un sacré roi du jeu vidéo. Et en plus, ça montre que le mobile pour le jeu vidéo devient extrêmement important. D'ailleurs, 2016 devient l'année où les revenus générés par les jeux vidéo mobiles sont plus importants que les revenus générés par console et PC. Donc c'est l'année du mobile pour les jeux vidéo.
Merci Pauline. On enchaîne maintenant avec Aurore Géraud.
Oui, alors moi, le week-end dernier, oui. J'étais avec ma petite Lila Megraoua, pas chez Samsung, mais sur l'esplanade de la bibliothèque François Mitterrand, parce que Samsung avait fait le premier parc d'attractions en réalité virtuelle.
Ah, vous y étiez samedi, je vous ai pas vu, tiens.
Oui, et on y allait toutes les deux, et c'était très sympathique. Du coup, on a eu le droit à différentes attractions, des montagnes russes, du ski, du surf, et mon préféré quand même, les zombies.
Ah oui,
c'est
forcément.
Logique. Et du coup, ça a accueilli donc plus de 42 000 visiteurs sur 6500 m² d'espace, et il y avait en tout 217 Samsung Gear VR présents. Alors c'est
donc
super intéressant.
Samsung Gear VR, c'est le masque.
C'est le masque de réalité virtuelle.
Dans lequel on glisse un smartphone.
Un smartphone, tout à fait. Alors là, on se dit, bon, tout ça est très gadget, pourquoi un parc d'attractions, machin. Eh bien, en fait, le but, c'est vraiment pour Samsung, de démocratiser la réalité virtuelle. C'est un point de départ, selon eux. Donc c'est la première fois à Paris, en France, qui lance un projet pareil. Et le but, c'est d'en développer différents projet pour montrer vraiment la capacité que peuvent avoir la réalité virtuelle sur le quotidien des individus, sachant qu'en plus il y aura cette démocratisation, elle est pour l'instant gadget, mais dans un second temps elle sera pour par exemple l'industrie 2.0. On voit le travail sur la maintenance, on va avoir aussi tout ce qui est formation médicale, donc vraiment c'est pour toucher la France.
Très bien. Moi j'y étais, j'ai trouvé ça très sympa.
Ouais, c'était rigolo.
Alors parfois on a un peu le mal de mer, hein, pour tout vous dire. Ça fait un peu brrr, comme ça.
Ah non, mais bon. Moi je suis totalement stoïque en fait.
C'est vrai ?
Mais je pense que c'est des années de jeux vidéo, ça m'a rien fait du tout.
Ah ben voilà.
Mais enfin c'était rigolo, hein, je dis pas le contraire, mais j'ai pas ressenti des sensations de nausée ou quoi que ce soit.
Constance.
Alors moi je vais vous parler d'un capteur qui va peut-être améliorer la vie de beaucoup d'asthmatiques. Alors il faut savoir qu'il y en a quand même 3,5 millions ne serait-ce qu'en France et que c'est une maladie qui peut être assez handicapante au quotidien. Alors en fait des chercheurs de l'université d'État de Caroline du Nord ont décidé de lancer un nouveau wearable pour prévenir l'arrivée des crises. Alors il s'appelle HET, avec mon fabuleux accent anglais, donc HET. En fait la majorité des crises sont dues à des facteurs extérieurs comme par exemple le niveau de pollution ou le taux de l'humidité de l'air. Et en fait la part des asthmatiques, même s'ils arrivent à savoir quand leur crise va se développer, il y en a certains du coup qui sont pris de court. Donc en fait le dispositif voilà, sert vraiment à les avertir en avance, donc c'est en trois parties. Il y a un petit patch à coller sur le thorax, qui fait peut-être la taille d'un Oreo pour se souvenir de la semaine dernière, qui lui va mesurer le rythme cardiaque ou le nombre de respirations par minute.
Faut pas le manger, quoi.
Faut éviter quand même. Hein.
Ben oui.
Il est lié à un petit bracelet connecté qui va lui s'occuper de mesurer la qualité de l'air environnement. Et enfin, il y a un spiromètre qui est relié à tout ça pour que les utilisateurs soufflent dedans à différents moments de la journée et puissent suivre leur capacité respiratoire. Donc les trois gadgets sont reliés ensuite à une application qui peut prévenir l'utilisateur si jamais une crise est imminente. Donc ça lui permet de rapidement changer d'environnement ou encore de se rapprocher de son traitement. Donc pour l'instant c'est sur batterie, mais il faut savoir qu'ils envisagent de faire en sorte que le dispositif soit alimenté par le corps humain directement, donc autonome en énergie. Donc on est encore au stade du prototype, mais si tout se passe bien, d'ici 4 ou 5 ans, il devrait être disponible donc en France pour la somme, si on l'achète sur un site américain, de $50.
Très bien, merci beaucoup. Constance, on enchaîne avec Sophia.
Alors moi, j'allais vous parler d'Oli. Oli, c'est le minibus Local Motors qui a été conçu.
Ah oui, j'ai eu peur, je croyais qu'il fallait aller au lit tout de suite. C'était un peu tôt quand même.
Pas encore.
Excusez-moi.
Donc ce minibus a été conçu à partir de pièces imprimées en 3D, mais c'est pas pour ça que je vous en parle. Et c'est pas non plus parce qu'il s'agit d'un véhicule autonome électrique de 12 places en circulation depuis quelques jours à Washington. Non, la spécificité d'Oli, c'est qu'il peut communiquer avec ses passagers grâce au super ordinateur Watson d'IBM. Donc on peut lui poser des questions sur le trajet, lui demander par où il va passer par exemple, ou est-ce qu'on va avoir du retard. On peut même lui demander quand est-ce qu'on arrive plusieurs fois et sans qu'il ne se fâche. On peut aussi l'interroger sur la technologie pour mieux en comprendre le fonctionnement. Et en fait, pour les usagers, c'est un peu un moyen de s'assurer que tout est en ordre et que la machine ne devient pas folle. Un peu comme quand on discute avec le conducteur ou qu'on le regarde pour essayer de se rassurer et de s'assurer de sa sobriété. Avec lui.
Ah oui, vous le regardez, vous faites ça souvent, vous, à votre...
Ça m'arrive.
Ah oui.
C'est un
rôle de conducteur.
D'accord. Vous allez bien, monsieur, hein, tout va bien. 10 plus 10. On est d'accord, ça fait 15. Ah oui, avec des petits pièges et tout, comme ça.
Mais c'est l'idée, en fait. C'est qu'avec Oli, les personnes dans le minibus auront plus tendance à faire confiance, du coup, au véhicule qui est capable de leur répondre qu'à une simple machine.
Mm-hmm.
Et ça peut aussi servir pour les véhicules autonomes, pour les voitures dans le futur. Parce que, par exemple, si elles ont besoin que les humains reprennent le contrôle, au lieu qu'il y ait une alerte sonore ou visuelle, la voiture pourrait leur dire « Aujourd'hui, la météo est mauvaise, je ne suis pas sûre de la fiabilité de mes capteurs. Est-ce que vous pourriez reprendre le contrôle pendant quelques minutes ?» Et en fonction de la réponse, la voiture pourra savoir si le passager est apte à conduire ou alors si, par exemple, le passager ne répond pas, s'il faut qu'elle se gare et qu'elle attende qu'il se réveille.
S'il n'est pas sobre non plus.
Voilà. Donc, en fait, la confiance entre robot et humain doit quand même aller dans les deux sens.
Et oui, c'est sûr.
Et ce petit Oli, donc il est en test en ce moment à Washington, mais légalement, il ne peut pas encore transporter de passagers.
Très bien. En tout cas, c'est sympa, Oli. Non, là, il n'y avait aucune... Non, mais aucune blague.
J'attendais une blague du genre Aïoli.
Non, pas du tout, parce que celle-là n'avait rien à voir.
Sud-Est, tout ça, non?
Ah oui, compliqué. Cécile.
Alors moi, j'étais la semaine dernière à Nantes, et non pas chez Samsung, pour le festival...
C'est sympa, Nantes aussi.
Très ensoleillé, en ce moment.
Très ensoleillé, c'est vrai.
Pour le festival du Digital Web Today, l'occasion de parler un petit peu des innovations de la ville de Nantes qui se veut une smart city sociale. Donc je vais vous parler très rapidement de trois projets de la ville. Nantes a d'abord créé une plateforme de dialogue citoyen appelée Nantes & Co pour permettre aux habitants de donner leur avis et d'échanger sur les orientations de la ville. L'objectif était de toucher les jeunes actifs, une cible qui s'exprime assez peu car ils doivent concilier souvent une carrière montante et une jeune vie familiale. Le résultat, c'est 40% de leur participation en plus. La ville a également lancé une application mobile qui s'appelle Nantes dans ma poche, qui sert à répondre aux questions quotidiennes très pratiques des citoyens. Par exemple, très d'actualité aujourd'hui, jour de grève, on peut demander si son bus est impacté ou si la cantine de son enfant est bien ouverte. Cette application est le fruit d'une collaboration d'Orange Labs et d'un panel de citoyens, les premiers concernés forcément par le service. Enfin, un dernier projet dans les cartons nantais est celui d'un coffre-fort numérique. Il s'agirait de dématérialiser les papiers administratifs et les papiers d'identité de personnes en grande précarité pour leur permettre de les conserver, car c'est un gros problème pour les sans-domicile fixe de ne plus avoir leurs papiers sur eux. Souvent, ça se perd, ça jette ou on ne pense pas qu'on puisse encore s'en servir. Du coup, ce serait un moyen pour eux de les conserver. Et enfin, comment devenir une smart city selon Nantes? Ils ont donné quelques pistes. Entretenir l'écosystème numérique avec des leaders pour tirer les wagons, internationaliser les échanges, éduquer avec plus de formation et enfin croiser les compétences et les axes de développement en investissant par exemple dans l'environnement pardon, et dans la smart grid.
Parfait, merci beaucoup. Constance.
Oui, alors je vais vous parler moi rapidement d'un petit comprimé assez atypique
permet
d'avoir une médecine personnalisable. Alors c'est l'Université nationale de Singapour qui a mis au point une imprimante 3D pour faire des cachets personnalisables. Alors déjà, il permet de mettre plusieurs substances dans un seul et même comprimé. Ça, c'est assez classique. Enfin, quand elles vont bien ensemble, bien sûr.
Mais en plus, il faut pas se tromper là.
Il faut pas faire de mauvais mélange. Mais il permet de prendre qu'un seul comprimé dans la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps d'action des comprimés peut être différé grâce au comprimé 3D. En fait, ils mettent des couches de matériaux différentes pour chacune des substances.
Qui mettent plus ou moins de temps à être digérées.
Du coup, au lieu d'avoir un petit pilulier et d'avoir à se rappeler régulièrement de prendre tous les comprimés à telle heure, hop, on en prend un le matin, peut-être un petit peu plus gros, mais voilà. Et ensuite, c'est on est tranquille.
Faut que ça passe, c'est vrai.
Mais voilà. Donc ça va bientôt, c'est encore au stade de prototype et ça va arriver dans les hôpitaux et cliniques de Singapour prochainement. Donc je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant d'avoir en France.
Merci beaucoup, passionnant en tout cas. Et on enchaîne donc avec notre vue d'Asie maintenant et Jean de Chambure qui est, vous le savez, à Shanghai. Comme chaque semaine, on est ravis de le retrouver. Bonjour Jean.
Bonjour François.
Jean, cette semaine, dans ce vue d'Asie, on va s'intéresser aux fintech en Chine.
Oui François, c'est vrai que les fintechs en Chine sont règnes. Il y a énormément de modèles qui se lancent. Mm-hmm. En Chine, a commencé bien sûr par le paiement. C'est absolument fascinant. Le paiement sur mobile, ça explose grâce notamment à la généralisation des systèmes de reconnaissance de QR code dans la plupart des magasins et grâce à pas mal de géants de l'Internet hein, comme Alipay qui a 400 millions d'utilisateurs ou WePay, le système WeChat. Mais les fintechs, c'est aussi le peer-to-peer, c'est-à-dire en fait donc la finance qui passe de personne à personne via des plateformes digitales.
Mmh.
Et pour cette chronique d'Asie, j'ai le plaisir d'avoir avec nous François Tangloek qui a créé une start-up dans le domaine du peer-to-peer, dans le domaine du peer-to-peer de l'assurance qui s'appelle Tongjubao. Tang, vous allez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce modèle, et puis je pense que François aura peut-être une ou deux questions à vous poser juste après. Donc Tang, en quelques mots alors, le peer-to-peer assurance, Tongjubao, c'est un modèle que je trouve absolument fascinant, il faut que vous nous les expliquiez pour qu'on comprenne bien en fait comment ça marche.
Alors, le peer-to-peer assurance répond à une énorme frustration des clients en Chine vis-à-vis de l'assurance. Et 81% des utilisateurs de l'assurance en Chine ne font pas confiance dans les assurances. Il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est facile de comprendre comment. Si on regarde les tarifications qui sont appliquées, si on regarde les conditions dans lesquelles les sinistres sont traités et les conflits d'intérêts qui peuvent exister au niveau des assureurs. Nous, ce que nous faisons, c'est nous construisons des communautés d'individus pour qu'ils partagent un risque ensemble. Et grâce à ça, ça résout beaucoup de ces problèmes. Le premier problème qu'on résout, c'est celui de la tarification. Parce que comme les personnes partagent un risque ensemble, il y a deux scénarios. Soit des gens ont des accidents, auquel cas l'argent de la communauté est utilisé pour les payer. Soit personne n'a d'accident. Et si personne n'a d'accident, l'argent retourne aux membres de la communauté. Donc il y a une justesse des prix qui existe dans ce modèle qui n'existe pas ailleurs. La deuxième chose, c'est qu'on essaye de donner plus la parole aux utilisateurs. On leur essaye d'avoir plus de transparence. Tous les mois, ils apprennent comment fonctionne le produit. Donc ça, c'est un angle de la chose. C'est comment améliorer l'expérience de l'utilisateur par rapport à l'assurance.
Et qu'est-ce que vous assurez ?
La deuxième chose, c'est la gamme de produits que l'on offre. Et on cherche à couvrir des risques sociaux que personne ne traite aujourd'hui. Par exemple, le prochain produit que nous allons lancer pendant l'été, c'est un produit qui protège les enfants. En Chine, les médias sociaux annoncent près de 200 000 enfants qui disparaissent chaque année. Et nous apportons une solution en réunissant des communautés qui permettent de financer, dès qu'un enfant membre d'une de ces communautés disparaît, de mettre sur place une enquête immédiate avec des experts, des gens comme Pinkerton ou leur équivalent chinois, qui sont sur le terrain pour, dès les premières 48 heures, donner une chance de retrouver les enfants. Donc on applique le modèle à la fois à des produits d'assurance classiques et à la fois à des risques qui sont tout à fait innovants, comme celui qui est lié aux enfants, comme ceux qui sont liés également à la rupture d'un couple ou d'un divorce, ce que personne ne fait aujourd'hui. Donc on s'attache à la famille, aux risques qu'ils ont en Chine. C'est une des valeurs essentielles en Chine et c'est ça sur lequel on apporte une réponse que personne d'autre n'apporte.
D'accord. Très bien. Mais merci beaucoup, Tang, pour ces précisions. Et voilà, c'est assez intéressant. Est-ce que ce modèle sera après dupliqué dans d'autres pays? On verra bien. Merci en tout cas. Vous restez avec nous. L'atelier revient dans un instant sur BFM Business. Silicon Carnet, Cyber Gadget à suivre. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, Cyber Gadget dans un instant. Mais auparavant, notre Silicon Carnet de cette semaine, et c'est avec Pauline Kantner qui est avec nous. Rebonjour Pauline.
Rebonjour.
Alors, vous vous êtes rendu à l'E3 la semaine dernière, cette grande conférence internationale sur l'industrie du jeu vidéo qui se déroule donc à Los Angeles chaque année. Et vous nous parlez aujourd'hui d'e-sport, Pauline.
Tout à fait. Alors, on parle énormément de réalité virtuelle dans l'industrie du jeu, mais alors figurez-vous qu'il y a une grande autre tendance qui est celle de l'e-sport, un terme qui peut prêter un peu à confusion. En français, on parle de sport électronique, et moi qui ne suis pas une aficionado des jeux vidéo, je n'avais pas du tout compris ce que c'était. Alors, l'e-sport, il s'agit de s'affronter soit seul, soit en équipe, lors de grandes compétitions de jeux vidéo multijoueurs. Ça peut se passer sur différents supports. Les joueurs s'affrontent soit sur console, soit sur PC, soit sur mobile. Et ça se passe dans de grands stades, similaires à des stades de sport, qui sont bondés de monde. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui regardent des joueurs s'affronter dans ces fameux jeux multijoueurs. Et alors l'e-sport, c'est un phénomène qui n'est pas si récent que ça. C'est venu avec la montée, évidemment, l'explosion d'Internet et des jeux multijoueurs en réseau. Mais aujourd'hui, ça prend de l'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent. Les joueurs s'affrontent pour remporter des prix, plusieurs milliers de dollars, attention. Et aussi parce qu'ils ont des fans, figurez-vous.
Eh bien, dites-moi. Et quelle est l'ampleur de ce phénomène ?
Alors aujourd'hui, c'est un véritable boom à l'échelle mondiale. Il y aurait 260 millions de joueurs et de spectateurs tout confondus dans le monde. Et les joueurs, avec une croissance de 27% à l'année. Donc imaginez, d'ici quelques années, ça va être quelque chose de connu par le monde entier et pas seulement par les gens qui sont joueurs eux-mêmes. Les joueurs peuvent regarder donc soit en direct en venant à ces fameuses compétitions, ils payent d'ailleurs un cher billet pour rentrer dans les stades, soit en fait les compétitions sont retransmises en ligne sur des plateformes de streaming, à l'image de Twitch ou de YouTube Gaming. Pour vous donner un peu une idée, League of Legends, qui est l'un des jeux multijoueurs les plus populaires au monde, il y a une finale de la compétition e-sport qui a été regardée par 32 millions de personnes. La semaine dernière, dimanche dernier, on avait la finale de basket de NBA, pas très loin de nos bureaux d'ailleurs à San Francisco. Ça a rassemblé 31 millions de spectateurs. Donc très bien, la NBA, c'est un public très américain. L'e-sport, c'est un phénomène mondial, mais quand même, ça donne une échelle, une référence en quelque sorte.
Ouais, c'est vrai que l'e-sport, c'est énorme. Et en matière de répartition géographique, Pauline, ça donne quoi ?
Alors, pour ce qui est des spectateurs, la quasi-moitié du public vient d'Asie-Pacifique, donc vraiment toute la région Asie du Sud-Est et Inde. Un quart vient d'Europe et 20% à peu près des États-Unis. Quant aux revenus, qui sont estimés à 463 millions de dollars pour l'année 2016, ils viennent principalement des États-Unis pour l'instant et de Chine et de Corée. Mais c'est des choses qui vont probablement évoluer.
Et le business de l'e-sport, comment se structure-t-il en fait ?
Alors l'argent, il vient principalement du streaming avec la publicité. Mmh. Il vient aussi des entreprises qui sponsorisent les équipes. Figurez-vous qu'Orange a commencé déjà en France à sponsoriser des équipes d'e-sport, comme Orange pourrait sponsoriser l'équipe de France. Mmh. Et des studios qui organisent les tournois. Donc par exemple, on a Valve Corporation, qui est un grand studio de développement, un grand éditeur de jeux vidéo, qui organise justement le tournoi League of Legends. Et d'ici 3 ans, on parle de 1,1 milliard de dollars de revenus pour l'e-sport, un marché qui attire énormément d'acteurs. Déjà, les chaînes de télévision s'y intéressent, parce que si effectivement le streaming en ligne et puis le fait de se rendre physiquement dans les stades, ça génère énormément de revenus et ça attire énormément de monde, pourquoi pas finalement avoir des chaînes dédiées au e-sport? On a d'ailleurs le groupe britannique Sky TV qui, à partir du 23 juin, offre une chaîne entièrement dédiée au e-sport dans son bouquet satellite. Donc imaginez des émissions, des retransmissions de compétitions. Et puis les GAFA, évidemment, adorent l'e-sport, à commencer par Google, qui a racheté YouTube, donc qui a déjà un très grand pas dans l'e-sport avec YouTube Gaming. Amazon a racheté Twitch. Et pour terminer, récemment, Facebook a annoncé un partenariat avec Activision Blizzard, hein, qui est un des studios de jeux historiques dans l'industrie du jeu vidéo, pour diffuser du contenu e-sport produit par Blizzard. Donc, à commencer par Call of Duty, hein, qui est le jeu qui génère le plus de revenus au monde. Et donc, en fait, dès qu'il y a du live streaming, disons que Facebook n'est jamais loin. Mais voilà, tout ça pour dire que l'e-sport, c'est un phénomène qui attire du monde en termes d'audience, et les entreprises commencent à s'y intéresser parce que c'est un business très, très lucratif.
Et après Pauline Kantner, donc, place au cybergadget d'Antoine. Antoine, d'ailleurs, juste un mot sur le crash test tout à l'heure. Le crash test sera dédié aux 24 heures du Mans.
Absolument. Voilà. 24 heures du Mans pour les geeks.
Absolument. Les 24 heures du Mans. Ça sera tout à l'heure. Mais d'ici là, votre petite sélection de gadgets de ce samedi.
Je vais vous parler des anneaux de fidélité Netflix.
Ah.
Par exemple, je vais vous faire une proposition, mon cher François. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager avec moi? Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas une demande en mariage. Ce que je vous propose.
Non, parce que là, vous risqueriez d'être déçu.
Je ne sais pas. Peut-être pas.
Peut-être pas.
Mais bon, là, en l'occurrence, il s'agit pas du tout de ça. Ce que je vous propose, c'est de vous engager à regarder avec moi nos séries à tous les deux préférées sur Netflix.
D'accord.
Voilà. Alors, figurez-vous que Cornetto vient de sortir 2 anneaux connectés à une application pour éviter les tromperies télévisuelles.
Alors,
donc, les infidélités.
Cornetto, c'est les glaces.
Oui, tout à fait.
Qu'on peut manger devant la télé.
Devant la télé. Donc, l'idée, c'est d'éviter les infidélités télévisuelles. Alors, voilà. Pourquoi?
Genre exemple, vous me dites que vous regardez telle série et en fait vous le faites pas.
Non, c'est pas ça vraiment le problème. Le problème, c'est deux personnes qui se disent, deux personnes vivant en couple, qui se disent on va regarder ensemble tel épisode, par exemple, de Games of Thrones, pour prendre un truc que les gens regardent.
Oui.
Voilà. Bon, eh bien, en fait, l'un des deux partenaires n'a pas attendu l'autre pour regarder l'épisode.
Oh mon Dieu.
Et donc, en fait, il se fait un deuxième visionnage.
Pour faire croire que c'est le premier.
Pour faire croire que c'est le premier. Et donc, l'étude faite par Cornetto a montré qu'il y avait eu en France déjà 28 millions de tromperies de ce genre et que 12% des gens sondés avouaient être prêts à faire semblant d'être étonnés en revoyant un épisode déjà vu à l'avance.
Ça vous est déjà arrivé ça, Antoine, ou pas, vous, perso?
Pas. Moi, non.
Non, jamais.
Moi, absolument pas.
Jamais.
Je suis d'une attitude parfaitement loyale.
D'accord.
Par ailleurs, 21% des personnes interrogées reconnaissaient aussi avoir fait quelque chose de pas bien beau, qui consiste à regarder les épisodes en cachette alors que leur conjoint est endormi. Donc c'est pas vraiment une cachette d'ailleurs, c'est juste voilà. Mais il y a des gens qui ont le sommeil tellement lourd que vous pouvez regarder bam bam bam, mais voilà, et ça c'est,
oui. C'est bon. Lourd et long.
Alors, les anneaux Cornetto, à quoi servent-ils? Eh bien, ils permettent de débloquer les épisodes de séries choisis seulement quand ils sont posés côte à côte à proximité du téléphone portable sur lequel l'appli est installée.
D'accord.
Et donc, le fameux épisode de Games of Thrones, le nouveau, eh bien, vous ne pourrez le regarder qu'ensemble avec vos 2 anneaux. Voilà.
Et après, on se regarde le silence des anneaux. Comme ça, on est bon.
Le silence des anneaux.
Ou le seigneur, plutôt.
Oh là là, mon cher François, là, vous êtes...
Oui, on est trop loin.
Exceptionnel.
Alors, on revient dans un instant, Antoine, avec la start-up de la semaine, ce sera Bypass, et notre enquête de l'atelier. Et on vous retrouve en toute fin d'atelier pour le crash test. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est bien l'atelier numérique, vous êtes bien sur BFM Business. Merci d'être avec nous comme chaque week-end. À quoi ressemblera l'aéroport de demain? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question dans un instant avec l'un des responsables d'ADP. Et puis aussi, on découvrira une start-up étonnante qui va garer votre voiture à votre place dans le parking. Et alors, c'est pas une personne, c'est carrément un robot. Donc, restez avec nous, on en parle dans quelques instants. Ce sera notre enquête de l'atelier. Mais auparavant, avec Aurore Géraud, c'est notre start-up de la semaine. On va parler d'une solution d'intelligence commerciale aujourd'hui.
Oui, nous sommes en compagnie de Loïc Deovan, qui est cofondateur de Bypass. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, on commence sur un débat. Comment on dit Bypass? Plutôt Bypass, P-A-T-H. Bon, on va dire à la française Bypass. Qu'est-ce qui se cache derrière ce doux nom?
En fait, l'idée est très simple, c'est que commercialement, on disait souvent bypasser son interlocuteur pour parler aux dirigeants, aux directeurs, aux managers, et que le commercial ne soit pas bloqué avec un seul interlocuteur. Donc c'est un mot qui est souvent employé dans les équipes commerciales. Mm-hmm. Nous, on l'a réutilisé dans la sonorité et on l'a changé avec PATH à la fin pour introduire la notion de chemin d'introduction entre les personnes.
Alors, vous identifiez comme le big data au service des commerciaux. C'est quoi le big data au service des commerciaux?
Alors voilà, on utilise le mot big data. Aujourd'hui, on va collecter toutes les données qui sont disponibles gratuites sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les news, la presse, les tweets. Donc tout ce qu'on peut glaner, collecter sur Internet, il y a des millions d'informations qui sont disponibles. C'est ce qu'on va appeler le big data. Donc toutes ces informations-là, ensuite on va les traiter, on va les organiser, on va les analyser pour donner des informations décisives aux commerciaux à chaque étape de leur cycle de vente.
C'est une forme de veille pour commerciaux, en fait.
Voilà, c'est une veille intelligente, proactive, qui va aider le commercial. Moi, je parle souvent de GPS pour le commercial. On pourrait appeler ça un GPS digital, mm-hmm. Qui va l'aider au quotidien parce que finalement, il y a trop d'informations à traiter. Donc, il faut l'aider, ce commercial.
Et donc, du coup, c'est une plateforme, c'est une application. Comment ça fonctionne?
Alors, c'est une application, ce qu'on appelle une application SaaS. Hein, donc, c'est en ligne, on se connecte, web, c'est aussi disponible en mobile. Donc très simplement, le commercial va entrer son réseau, ses réseaux sociaux, ses réseaux LinkedIn, son réseau Viadeo, son réseau Facebook. Il va définir sa cible, donc en gros comme dans une voiture, il va dire où il veut aller, qu'est-ce qui l'intéresse, est-ce que ce sont les DSI, est-ce que c'est l'agroalimentaire, est-ce que c'est l'IT, en France, à l'étranger, à l'international. Et puis il va définir son écosystème, qui sont ses concurrents, qui sont ses partenaires, qui sont ses clients. Et à partir de là, Bypass va faire son travail d'analyse et dès qu'il va capter une information qui peut aider le commercial, qu'il trouve intéressante pour lui, il va lui servir tout simplement de façon intelligente en lui disant qui doit contacter, pourquoi il doit le contacter et surtout comment il doit le contacter, comment il doit utiliser cette information.
Vous pouvez nous donner des exemples de mise en relation?
Oui, tout à fait. Alors, il y a différentes choses. Une alerte, ça peut être tout simplement une alerte pige. Vous êtes intéressé par des DSI dans l'agroalimentaire, encore une fois. Il y a un DSI qui vient d'être cité dans la presse. Là, Bypass va reconnaître cet article de presse, va le remonter au commercial et va lui dire, tiens, ton interlocuteur a été cité dans tel média. Ça serait intéressant que tu l'appelles et que tu le félicites pour son article. Et by the way, présente-toi et présente ton offre. Donc ça, c'est un moyen d'introduction. À chaque fois, ce sont des histoires à raconter, ce qui va permettre de créer ce qu'on appelle le warm call en anglais. Mm-hmm. Ce sont des liens d'introduction qui vont permettre au commercial de briser la glace. Hein, le gros problème, c'est d'éviter...
Et peut-être aussi de se démarquer des autres en ayant une petite... en faisant jouer l'affect. C'est ça.
C'est tout le travail du commercial, c'est d'avoir suffisamment de matière pour se différencier et que l'interlocuteur lui accorde deux minutes d'intérêt. Donc ça, c'en est une hein, avec la news, mais ça peut être, tiens, dans votre réseau relationnel ou tiens, il y a 10 ans, vous avez travaillé avec telle personne et cette personne aujourd'hui aller à un poste de direction dans une société qui peut vous intéresser.
Voilà, si on veut en savoir plus, donc Bypass.
Tout simplement.
Et bien, bon vent, donc Loïc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Et on enchaîne donc maintenant avec notre enquête de l'atelier. À quoi ressemblera l'aéroport de demain, Lila, à quelques jours des vacances? Forcément, ça, c'est, on veut avoir la réponse.
On essaye d'appeler voilà, en fait de nos voeux. Les vacances.
Exactement. La semaine prochaine, on fera à quoi ressemblera le matelas pneumatique de demain. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Mais là, l'aéroport, c'est bien, déjà. Et on va en parler avec nos invités, qui sont là.
Mais oui. Alors on va s'interroger effectivement sur à quoi pourrait ressembler l'aéroport de demain. Quelque part, avant de s'interroger sur demain, il va falloir considérer l'aéroport d'aujourd'hui, l'aéroport qui a évolué, on le verra, drastiquement ces dernières années et qui a très peu à voir avec avec le passé. Alors, pour en discuter, on a le plaisir d'avoir deux spécialistes du sujet. Guillaume Sauvé, bonjour.
Bonjour.
Alors, Guillaume Sauvé, vous êtes directeur ingénierie et développement du groupe ADP. Et Clément Boussard, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Clément Boussard, vous êtes CEO de la start-up Stanley Robotics. On va voir, en fait, vous avez vocation à révolutionner le parking, tout simplement.
Oui, parce qu'il faut arriver à l'aéroport.
Ben voilà.
C'est ça.
C'est ça. Alors avant d'embrayer sur l'expérience passager qui nous intéresse tous, on va d'abord s'interroger sur comment la technologie au service de l'aéroport peut également faire évoluer l'aéroport en tant qu'infrastructure, à savoir comment comme bâtiment intelligent. Alors Guillaume Sauvé, ma première question s'adresse fatalement à vous. Alors aujourd'hui, l'aéroport est-il un bâtiment intelligent et à demain, à quoi pourrait-il ressembler en tant que bâtiment intelligent ?
Alors déjà, on a une chance, c'est qu'on est sur un marché qui est en formidable croissance. Le trafic aérien va doubler dans les 15 années à venir. Et ça nous oblige évidemment à penser l'aéroport différemment. À utiliser toutes les facultés du numérique pour passer peu à peu sur un aéroport intelligent. Alors effectivement, l'aéroport de demain, comment il sera ? On voit qu'il devrait être plus capacitif pour être capable d'accueillir ce trafic. Mmh. Il devrait être aussi très compact. Très compact parce qu'effectivement, nos clients souhaitent minimiser les distances de marche. Et enfin, il devrait être bien connecté à la ville. Pour faire tout ça, on doit pousser les murs, mais on essaie de pousser les murs de manière numérique. Alors on le fait déjà au niveau de la conception, on conçoit aujourd'hui avec des maquettes numériques 3D qui nous permettent de travailler en interface directe avec nos clients, les utilisateurs. On a également un aéroport qui est de plus en plus intelligent, on parle aujourd'hui de Smart Airport, parce qu'il est totalement interconnecté avec toutes les données qu'on récupère de nos clients, de nos partenaires, pour être capable d'utiliser au mieux les infrastructures. Deux exemples. Premier exemple, si on est capable d'échanger les informations qui viennent de la compagnie aérienne, de l'aéroport, de l'aviation civile, on est capable d'envoyer les avions au bon moment sur les pistes pour qu'ils décollent. On n'a plus de temps d'attente. Ça, c'est une première illustration. Deuxième illustration, on travaille depuis quelques temps avec une société, le groupe Passifa, qui nous permet de mesurer en temps réel les différentes files d'attente dans nos aérogares, et donc d'envoyer les ressources, que ce soit des ressources en termes de contrôle de sûreté, en termes de contrôle police pour les immigrations, qui permettent de minimiser ces temps d'attente. Mmh. Donc effectivement, cette masse d'informations, elle nous permet d'être beaucoup plus réactifs, de mieux utiliser nos infrastructures, et donc d'accueillir ce trafic.
Et nos ressources également.
Et nos ressources, effectivement.
Donc ce qui a un effet sur l'expérience passager.
Alors, ça, vous avez raison. Enfin, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, le passager est au cœur de ce voyage dans l'aéroport. On a longtemps vu les aéroports comme des lieux de passage, des lieux de transit assez impersonnels. Aujourd'hui, on est sur un modèle complètement différent où le passager vit une expérience de l'aéroport. C'est pour ça que peu à peu, on intègre des œuvres d'art dans les aéroports. C'est juste un exemple. On a un musée sur Roissy. On a une exposition Rodin. On a un certain nombre d'expositions qui permettent effectivement de garder un souvenir de l'aéroport. C'est vrai à Roissy. C'est vrai dans tous les aéroports du monde. De ce point de vue-là, le numérique nous permet de complètement d'avoir ces échanges avec nos clients et d'être capable de construire un parcours personnalisé pour nos différents clients. Donc nous, en comprenant les attentes de nos clients, en voyant comment il va, ce qu'il souhaite faire, on est capable de lui offrir des services différents. Et le client de son côté, puisqu'il a toutes les informations en temps réel, que ce soit les informations en matière de vol, en matière de services disponibles, lui est capable aussi de construire son parcours. Et donc on offre un service totalement différencié à nos différents clients, que ce soit des familles, que ce soit des businessmen. On construit ce parcours et on n'a pas 95 millions de passagers aujourd'hui. On a 95 millions de clients individuels qui passent dans nos infrastructures. Donc juste à titre d'illustration, quelques-unes de ces solutions numériques. On offre actuellement, on a une cinquantaine de dispositifs qu'on appelle des bornes d'information qui permettent à tout client de scanner sa carte d'embarquement. Mmh. et ça lui donne ses informations sur comment accéder à sa porte. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, on construit, on déploie des solutions automatiques, que ce soit en enregistrement automatique, que ce soit en embarquement automatique, qui permettent d'aller beaucoup plus vite sur ces différentes étapes du parcours.
Donc concrètement, ça va être du self-check-in, à savoir que je vais être capable d'enregistrer mon bagage.
Exactement, vous avez employé le terme que je n'osais pas utiliser, du self-check-in, du self-boarding, des passages de frontières automatisés avec des systèmes d'empreintes qui permettent d'aller beaucoup plus vite et qui permettent là encore de choisir. Effectivement, on pourra s'enregistrer chez soi, sur Internet, on pourra enregistrer à l'aéroport, on pourra enregistrer auprès des personnels des compagnies aériennes. Donc voilà, on offre le choix.
L'objectif, c'est de minimiser au maximum les files d'attente, en fait, c'est ça ?
Oui, l'un des objectifs, effectivement, c'est de minimiser les files d'attente pour que le parcours soit le plus agréable possible. Ça rejoint aussi votre première question, c'est que plus on est capable d'aller vite dans ces différentes étapes, plus on est capable d'accueillir de clients. Donc ce sujet de capacité, cet enjeu d'accueillir tous ces passagers, ces 7 milliards de passagers en 2030, c'est une réalité. C'est aussi une formidable source d'emploi pour l'ensemble de la région parisienne.
Alors, on est capable également d'ores et déjà à Roissy et je ne suis pas sûre pour Orly avec Clément. Alors Clément Boussard, vous êtes PDG de la start-up Stanley Robotics et en fait aujourd'hui en aéroport vous proposez un service de voiturier du futur. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus?
Oui, c'est ça. C'est un service voiturier automatique. J'ai beaucoup aimé toute l'introduction et toute la discussion juste précédente hein, sur les aéroports. On est exactement dans ce schéma-là. On est une solution pour gérer au mieux les infrastructures et pour apporter de l'intelligence dans les infrastructures. Aujourd'hui, comme vous le rappeliez, il faut arriver à l'aéroport. Alors, il y a tout un ensemble de transports en commun, de solutions qui existent, mais il reste encore
beaucoup de gens. Qui peuvent être améliorés entre nous, mais bon, ça, c'est un autre débat.
Voilà.
Oui. J'espère bien que vous y travaillez.
Mais il reste encore beaucoup, et il restera encore beaucoup de gens qui vont à l'aéroport en voiture. Et donc, comme il existe le bagage drop-off quand vous voulez faire votre self-checking et que vous déposez votre valise et qu'elle est prise en charge automatiquement, à la fin de cet été, vous pourrez avoir exactement le même service, mais avec votre voiture. Vous déposerez votre voiture dans un espace dédié et votre voiture sera prise en charge. Vous n'aurez plus qu'à vous retourner et à prendre les escalators qui se trouvent derrière vous pour vous trouver face à votre porte d'embarquement et aller prendre votre avion.
Donc concrètement, je n'ai plus la lourde tâche que d'aller garer ma voiture. C'est quelqu'un qui va garer la voiture pour moi.
Alors c'est pas quelqu'un.
Ah.
C'est l'aspect spécificité de Stanley Robotics.
Voilà.
C'est pas quelqu'un.
Parce qu'il y a Robotics dans Stanley, c'est pour ça.
Exactement. Donc en fait, on propose ce service-là, et effectivement, dans la façon de le proposer, je vous ai dit, c'est un service de voiturier automatique, mais en fait, derrière, effectivement, il y a un robot. Il y a un robot qui va prendre en charge votre voiture. Mais ce robot, vous le voyez pas, en fait. Parce que pour vous, il n'y a pas d'intérêt plus que ça à voir le robot. Vous déposez votre voiture dans un espace dédié, en fait une sorte de box, un sas. Vous en sortez, donc ce sont des places qui sont très larges. Ce sont des places qui font 4 mètres de large pour 6 mètres de long. Donc c'est des places qui sont plus grandes que celles que vous pouvez trouver pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, ou par exemple pour les familles nombreuses, comme on peut trouver sur certains.
Donc on n'est pas obligé de galérer pour faire un créneau pour entrer dedans.
On peut ouvrir ces deux portières, les deux portières avant ou les quatre portières sans toucher le côté.
Donc on rentre dans ce sas.
En une manœuvre, voilà, on rentre, on ouvre ses portières, on peut faire le tour de sa voiture sans contrainte, on ferme, on sort, on appuie sur un bouton pour indiquer qu'on est d'accord pour que le système prenne en charge la voiture. Et là, il y a des rideaux qui se baissent. Et votre voiture disparaît dans un univers qu'on gérera intégralement et qui permet d'être dans cette logique de la gestion intelligente des infrastructures. C'est-à-dire que
Alors,
toute
plus
la
intelligent
zone arrière,
parce que
Alors, toute la zone arrière, en fait, va être une zone de parking aujourd'hui classique, mais que nous, on va transformer en une zone qu'on va éteindre. Donc, on va tout éteindre. On va restreindre cette zone pour qu'elle soit inaccessible à des gens, au public. D'accord. Ou à n'importe qui. Mm-hmm. Et seuls des robots circuleront dans cette zone. Donc, notre robot, quand même très rapidement, juste pour vous dire, c'est pas un robot qui se met au volant de votre voiture, hein, c'est un robot qui est une plateforme qui se glisse sous votre voiture, détecte les pneus, la soulève et va la garer. D'accord. Dans cette zone qui est entièrement dédiée et dans lesquelles on va...
Et ça arrive pour à Roissy, c'est ça?
Et ça, on est juste là en phase de test. On est en train de finaliser les tests. Mm-hmm. Et à la fin de l'été, ben, ce sera accessible à tout le monde.
Et ça coûtera plus cher que... Beaucoup plus cher que le fait de prendre le temps d'aller garer ma voiture moi-même?
Alors... Ça, cette question-là je laisse
Guillaume,
à
Guillaume, Guillaume Sauvé.
Bon, pour l'instant, on est sur la phase de
tant
test.
Que j'ai ma réponse.
Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est à tester toutes ces solutions. On est vraiment sur ces solutions de test and learn. Et c'est vraiment ce qu'on met en place. Et là, vraiment, l'objet du partenariat avec, Stanley Robotics, avec Clément, c'était vraiment de tester ce système. On veut vraiment, aller jusqu'au bout de cette expérimentation. On le fait sur d'autres sujets. On le fait avec les drones. Et c'est vrai que, on veut faire la preuve que ça marche, que ça a un vrai impact, que ça a un vrai impact client, que ça a un vrai impact sur le fonctionnement de l'aéroport. Aujourd'hui, c'est notre but et c'est pour ça qu'on souhaite faire cette phase de test dès la fin de l'été.
Vous êtes vraiment dans une logique de l'aéroport en tant que laboratoire, à la fois d'incubation, d'accélération, de start-up potentiellement.
On est persuadé que l'aéroport comme lieu d'échange est un vrai espace de rencontres, de tests, et on peut effectivement faire plein de choses. On peut innover de différentes manières. Donc on est en partenariat avec différents accélérateurs de start-up, que ce soit un accélérateur de start-up sur les méthodes de construction, c'est Pulse Lab, que ce soit un accélérateur sur tout ce qui est aéronautique en matière de drone avec Starburst, et puis également un incubateur qui s'occupe de tout ce qui est activité tourisme, qui est Welcome City Lab. Donc d'accord. Effectivement, on travaille en partenariat avec ces trois incubateurs. C'est via l'un de ces trois-là qu'on a trouvé cette pépite qui est Stanley Robotics, et on est totalement confiant sur le fait que ça va être un magnifique service.
Ça coûtera pas beaucoup plus cher que laisser de sa voiture au parking. Vous avez pas répondu à ma question. J'ai bien vu que vous vous tirez en touche, hein, mais vous savez, moi je suis un peu hargneux, hein.
Écoutez, au début, vraiment sur ces phases de test, l'idée c'est qu'effectivement on se soit dans les mêmes prix.
Très bien. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle, Guillaume Sauvet, vous êtes directeur ingénierie et développement du groupe ADP. Et merci beaucoup, Clément Boussard, vous êtes CEO de Stanley Robotics.
Et dans un instant, Lila, on va aller en Chine. Et on va s'intéresser, en fait, la propriété industrielle en Chine, qui est un peu particulière parfois, avec un exemple bien concret. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, comme chaque samedi. Tout à l'heure, nous retrouvons notre passion selon Sanet. On va s'intéresser à la sécurité des véhicules et des transports intelligents, puisque demain, tous ces véhicules connectés auront une identité numérique, un certificat numérique. On va rentrer dans ce débat passionnant dans quelques minutes. Mais auparavant, on va s'intéresser à la Chine et à cette notion de propriété industrielle qui est un peu particulière quand même là-bas. Lila, on va prendre par exemple l'exemple d'Apple avec son iPhone qui s'est fait attaquer en Chine pour plagiat par une boîte chinoise.
Tout à fait, c'est exactement ça, à savoir que les iPhone 6 pourraient être interdits de vente en Chine, comme vous disiez, puisque Apple aurait plagié un smartphone de la compagnie Shenzhen Bailey. Alors, on va le découvrir avec notre invité. On a le plaisir d'avoir une spécialiste en studio, Valérie Ferret. Bonjour.
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 Alors, Valérie Ferret, vous êtes directrice générale d'Ypsilon. Alors, Ypsilon, vous êtes spécialisée dans le dépôt, le suivi, l'entretien et la défense de tous les droits ayant trait à la propriété industrielle, donc à savoir les brevets, les marques, les modèles et les noms de domaines. Alors, dans le pays de Jack Ma, d'ailleurs c'est assez cocasse parce que Jack Ma a déclaré récemment que la contrefaçon chinoise est souvent meilleure que l'original. Là, on se retrouve avec une affaire de possible plagiat. Alors, comment une telle chose est possible, Valérie Ferret? Est-ce qu'il y a des standards culturels qu'Apple n'aurait pas compris?
Alors, en fait, ce qui s'est passé dans cette affaire, en tout cas sur, donc, à partir des infos qu'on a aujourd'hui, c'est que donc une société Shenzhen Bailey, a une protection par un modèle déposé en Chine de son smartphone, et que donc sur la base de cette de ce droit protégé, elle a attaqué le modèle, c'est-à-dire la forme extérieure de l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Donc, il semblerait que Apple ne se soit pas protégé sur ce modèle, et donc a été condamné par une cour administrative. Alors il faut faire très attention, on est au niveau le plus bas de des juridictions en Chine sur des procédures très rapides et qui vont pas tellement au fond. Donc ils ont été condamnés par une cour administrative, mais ils ont immédiatement fait appel, ce qui veut dire qu'aujourd'hui ils peuvent continuer à vendre leur iPhone 6 en attendant que la décision soit rendue.
Mais parce qu'à partir du moment où ils font appel, ça enlève l'interdiction de vente.
Alors,
c'est ça,
cet appel-là est suspensif de la décision de la cour administrative, et eux, ils ont fait appel devant une cour judiciaire spécialisée en propriété industrielle, qui est un tribunal au niveau national chinois. Alors que la cour qui a rendu la décision, c'est au niveau uniquement de la région de Pékin.
D'accord. Mais est-ce qu'on en sait plus un peu sur téléphone mystérieux qui aurait été plagié, enfin qui se ferait plagier par Apple? Il est sorti avant l'iPhone, c'est ça? Parce que est-ce qu'il y a aussi une notion d'intériorité dans ce cas précis?
Bien sûr. Et donc ils ont déposé effectivement un modèle protégeant la forme de ce téléphone avant la sortie de l'iPhone 6, un modèle qui, selon la cour, a de nombreuses ressemblances avec l'iPhone 6, qui fait que le consommateur, parce que c'est ça le critère, le consommateur ne voit pas les différences, mais voit surtout les ressemblances, et du coup pense que l'iPhone 6, c'est une copie du modèle Sensé, je crois c'est le nom de ce modèle de la société en question. Et donc c'est sur ces arguments-là que la cour s'est appuyée. Cela étant, moi j'ai regardé un petit peu plus en détail, et il y a de nombreux contre-arguments que Apple pourrait faire valoir pour dire qu'il y a quand même des différences sur, en tout cas, les parties originales du téléphone.
Oui, parce qu'un smartphone aujourd'hui, alors bon, c'est vrai qu'il y a quelques petites différences de design, mais s'ils sont tous plus ou moins les mêmes, il y a un bouton en bas, il y a un écran au milieu, il y a des boutons sur le côté, c'est compliqué, non?
Absolument.
Tout
absolument.
Ça, c'est une question d'interprétation, j'imagine.
C'est une question d'interprétation, et puis il faut voir qu'on est donc dans une cour régionale administrative. Je pense que d'autres aspects rentrent en ligne de compte en Chine, au niveau de ces cours-là, et qu'il y a une certaine forme, disons, de protectionnisme qui passe aussi par ces interprétations-là. Cela étant, les cours judiciaires, comme je vous ai dit, donc les cours de niveau plus élevé, et justement, c'est ce qui est très important pour la Chine en ce moment par rapport à ce que les questions que se posent de nombreuses entreprises, est-ce que je dois protéger ou pas en Chine, c'est que oui, au niveau des cours plus élevés, on a quand même une sécurité juridique qui est meilleure que au niveau de ces cours administratives.
Alors apparemment, en préparant l'interview, vous me disiez que Apple, c'est pas la première fois qu'ils se font avoir en fait en Chine. Il y aurait même de faux Apple Store. De faux Apple Store en Chine, les salariés ne sauraient pas exactement s'ils bossent pour Apple ou pas.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a de faux Apple Store en Chine, ça c'est sûr.
Il y a de faux Apple Store qui sont des copies conformes des vrais Apple Store tels qu'on peut voir ici aux États-Unis.
Bien sûr. Et qui reprennent le logo original d'Apple,
tout,
etc.
Tout, vraiment. Oui, ouais,
jusqu'au t-shirt bleu des vendeurs, etc. Les tables en bois.
Et les salariés, moi ce qu'on m'a dit en Chine, c'est que dans certains de ces faux Apple Store, les salariés pensent être employés par Apple.
Mais en revanche, ils vendent de vrais iPhones.
C'est alors, ça la vie. Ils vendent de vrais iPhones, soit, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Donc voilà. Et puis, bien sûr, oui, ils vendent. Parce que là, aller dans la contrefaçon de l'iPhone lui-même, je pense que c'est quand même très risqué, même en Chine, pour des Chinois.
Mais quelles erreurs, là, justement, a fait Apple concernant ces magasins, et même cet iPhone qui a été, qui serait soi-disant un plagiat d'un smartphone chinois.
Écoutez, je pense, bon, sur les magasins, je pense pas vraiment qu'on puisse dire qu'il y ait une erreur. C'est simplement, c'est vrai que c'est un pays où il faut se méfier énormément de la copie, et que la protection, elle peut pas aller au-delà d'un certain niveau. Donc là, c'est simplement de la concurrence déloyale à laquelle on doit faire face dans un pays énorme avec des règles qui sont différentes. Sur le modèle en question, Bon, moi je vous dis, j'ai l'impression, parce que j'ai pas encore pu trouver d'informations me disant le contraire, mais qu'ils n'ont pas protégé leur leur modèle. Peut-être que s'ils l'avaient protégé, s'ils avaient déposé Apple un modèle, ils ne se seraient pas trouvés dans cette
situation. En Chine, ils n'ont pas protégé en Chine, parce que j'imagine que dans d'autres pays, il est protégé, bien sûr.
Voilà. Donc moi, je n'ai pas trouvé l'information pour le moment. Donc peut-être qu'ils l'ont fait et qu'ils vont contre-attaquer avec leur modèle. Mais ça, je n'ai pas encore eu l'information. C'est tellement récent que n'ai pas encore eu cette information.
Quelle leçon pourrait en tirer une société française qui aimerait s'implanter en Chine ? Quelle bonne pratique vous auriez à donner ?
Alors, nous, ce qu'on conseille, nous, on a beaucoup de clients, des petits, des grands, des moyens, et on conseille vraiment pour les sociétés qui veulent s'implanter sur le marché chinois de se protéger, c'est-à-dire de déposer des brevets, de déposer des marques, de déposer des modèles, selon bien sûr leurs innovations et ce qu'ils ont à protéger, mais de se protéger. Pourquoi ? Parce que en Chine, de plus en plus, les Chinois se protègent. Donc, les Chinois ont des armes et il faut avoir les mêmes armes que les Chinois sur le marché chinois. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le système juridique a beaucoup évolué. Alors, on entend beaucoup de choses, sur la partialité, etc. Mais ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué en faveur des entreprises occidentales.
Étrangères, oui.
Voilà. Donc, ou étrangères. Donc, il faut pas se poser de questions là-dessus. Et en plus, la protection, elle est longue. En marque, elle est indéfinie dans le temps. En brevet, c'est 20 ans. Ça va encore beaucoup évoluer parce que ça va très très vite dans les 20 prochaines années. Donc il faut se protéger et c'est vraiment crucial si on veut être sur le marché chinois en ayant les mêmes armes ou en tout cas des armes qui peuvent arriver au niveau de celles qu'ont les Chinois sur place.
Eh ben, on l'a
Merci
compris,
Valérie.
L'expression clé reste se protéger. Merci beaucoup Valérie Ferret. Je rappelle, vous êtes directrice générale d'Ypsilon. Merci.
Voilà. Je crois qu'il y a quelques avocats beaucoup. Chez Apple qui vont se faire souffler dans les branches là, si ce n'est déjà fait. On revient dans un instant, suite de cet atelier dans une minute, et ce sera notre passion selon Sanette. À tout de suite.